Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes en direct dans le studio, entre une échelle, une truelle. Je plains en particulier ceux qui, alors parce que le studio est à peu près comme un cocon préservé, c'est pas le cas de notre technique, de notre technicien du jour, que nous remercions pour la réalisation de cette émission, qui est Arnaud. Bonjour Arnaud, bienvenue.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Alors courage Arnaud, ça va le faire.
Enfin deux échelles.
Deux échelles, des bâches plastiques, c'est terrible. Voilà, mais j'ai évité de passer sous l'échelle, donc normalement, cette fois-ci, l'émission devrait bien se dérouler. Et je ne dis pas ce qu'il en est de nos malheureux bénévoles.
Ah, ils sont obligés de passer
standard.
Sous une échelle.
Voilà, ils passent sous toutes les échelles possibles et imaginables. Ce sont les travaux, mais on espère en effet que c'est pour le bien de tout le monde au sein de Radio Courtoisie. Non pas les auditeurs, ils ne le voient pas, mais pour les invités, pour les secrétaires, pour les bénévoles au niveau du standard, pour les techniciens, pour les patrons d'émission, pour leurs assistants, assistantes. Et pour donc les invités, évidemment, ce sera beaucoup mieux, même si c'était déjà pas si mal auparavant. Voilà, je suis un vieux conservateur. Plus ça va, plus je vieillis d'ailleurs, et donc je vais bientôt pouvoir vraiment dire que je suis un vieux conservateur. Donc on remercie Patrice et Sylvie au standard. N'hésitez pas, chers auditeurs, pour vos remarques, observations, questions, si vous en avez. Mais oui, des fois ça peut être une simple question, chers auditeurs.
C'est mieux d'ailleurs qu'un commentaire.
C'est mieux. Bon, ceci dit,
saluer déjà les auditeurs.
Alors, voilà, je voulais juste leur dire aux auditeurs, en tout cas, qu'ils pouvaient passer soit par courriel, soit au standard, semble-t-il. Il y a au moins une ligne de téléphone qui, a priori, fonctionne. Essayez, et sinon, passez par courriel, et que ce soit Arnaud ou que ce soit nos bénévoles, nous transmettront les courriels. Et donc, je remercie Lara qui m'assiste aujourd'hui. Bonjour Lara.
Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Je suis quand même ravie de retourner dans ces studios. Voilà, donc ça fait très plaisir. Et vous connaissez la malédiction chinoise?
Je connaissais la malédiction du voleur chinois qui déplace petit à petit l'objet jusqu'à vous le faire disparaître du champ de vision et vous le voler, mais non.
Non, mais il y a une malédiction chinoise qui dit que tu vives en temps de changement. Voilà.
Que tu vives en temps de changement, voilà, c'est une malédiction.
C'est une malédiction.
Bah, moi, je n'aime pas le changement.
Donc on vit en temps de changement.
J'ai dû être chinois dans une vie antérieure.
On est maudit par les Chinois. Voilà.
Ça doit être ça. Bien, on va... Alors, notre invité du jour, il est là. On est tous là, hein, dans notre petit cocon. On est contents. Et avec, d'ailleurs...
Pour toi,
son,
on est
avec
quatre.
Son animal de compagnie qui est à nos pieds, là, qui est formidable.
Mais vous n'allez pas commencer par Tico.
Non, mais c'est pour justement, sciemment, pour que les auditeurs devinent l'invité. Voilà, puisque l'invité a un invité qui donc est avec son animal de compagnie. Eh bien oui, vous avez trouvé, c'est Christian Combaz. Bonjour mon cher Christian.
Bonjour.
Voilà, Campagnol TV.
Voilà, Campagnol TV. Léon, l'abonné au monde, Gustave, tous ces personnages dont on se régale.
Multiple.
Voilà, et Léon, le devin. Et Dieu sait comme il devine bien, en ce moment en particulier.
Ça en est même pénible, par moment.
Vous aurez une émission ce soir sur Géopolitique Profonde TV à 19h que je vous conseille, où nous justement nous parlerons de Léon, de ce qu'il a deviné sur Macron, entre autres. Ça sera l'émission du soir, mais ça sera autre chose aujourd'hui. On va parler d'intelligence artificielle avec Christian Combaz. On va parler de l'intelligence artificielle porte peut-être des enfers. ça sera le thème de cette émission.
Des enfers au sens classique, hein, quand même.
Au sens classique, pluriel.
Pas de l'enfer, oui.
Un pluriel, très bien. Bon, allez, avant cela, chers auditeurs, commencez par notre petite revue de presse. Ouais. Revue de presse, alors qui d'ailleurs...
Tout ce que vous avez travaillé avant de partir
va me faire perdre,
ce matin.
Voilà. Va me faire surtout perdre mon ton enjoué.
Ouais.
Et au contraire, me mettre dans une colère noire, en tout cas, lorsque je l'ai appris descendant de notre hôtel... Et de lire sur les chaînes d'infos en continu que ça y est, le chaos s'étend, cette puissance de chaos qu'est Israël, associée évidemment aux États-Unis d'Amérique, ce suprémacisme occidental dont ce sera peut-être la guerre de trop, dont ce sera peut-être le tombeau, disons-le, eh bien voilà, de façon préventive, les guerres préventives, c'est ce qu'il y a de pire, bombarde l'Iran. Le concept de guerre préventive devrait, quand je pense à toute cette droite attardée qui disent « Ah, Benjamin Netanyahou, c'est le Premier ministre qu'il nous faut, nous, en France !» Ils se rendent compte combien, en plus, Israël et les États-Unis, dans cette guerre-là, dans cette guerre préventive, contreviennent absolument à ce qu'est la civilisation. Civilisation européenne, pour ça que moi je supporte pas de parler d'Occident.
Donc, mais Nicolas, civilisation, il y a la notion de civilisation, d'accord, mais il y a droit international. Qu'est-ce que c'est que la guerre préventive en droit international?
C'était surtout une guerre préventive, c'est-à-dire que tout était bon, et même il fut une époque où on cherchait des prétextes. Là, vous avez des négociations qui se déroulent en Suisse.
Qui aboutissent
hier par l'acceptation par l'Iran de ne plus stocker son uranium enrichi. Ce qui n'empêche pas Trump le soir même de dire, hein, avec ses 200 mots de vocabulaire, je ne suis pas content. Donc il dit « je ne suis pas content » et le lendemain, la foudre, les bombardements débutent sur Téhéran et avec des volontés toujours aussi détestables. Terroristes, je suis désolé. Alors, je sais que Madame Yadan, tant que la loi de Madame Yadan n'est pas passée, j'ai encore le droit de dire qu'Israël peut commettre des actes terroristes ces frappes de décapitation, ces bombardements où on cherche à tuer un chef d'État, un homme politique, un scientifique. Quand on veut tuer un scientifique... D'ailleurs, c'est la même engeance, hein, Zelensky, Netanyahou, c'est la même engeance, ce sont les mêmes, que ce soit du nationalisme intégriste ou que ce soit du sionisme révisionnisme, ce sont les mêmes. Eh bien, ce sont des actes de type terroriste, où on tue un général, où on tue un scientifique, où on tue un ministre, où on cherche à décapiter un gouvernement. C'est leur façon de fonctionner, et on ose nous prétendre ensuite que c'est l'armée la plus morale du monde, à savoir Tzahal. Et Mossad, bien sûr, les services les plus moraux du monde, on l'imagine bien. Donc voilà, les bombardements ont débuté, donc pour tous nos amis qui ne juraient que par Trump et disaient « mais non », et qui ont parié d'ailleurs, et je les ai reçus nombreux sur Géopolitique Profonde, et ben écoutez, je pense qu'il va falloir que vous révisiez un petit peu vos analyses, je le crains. Lara, un commentaire sur ces premiers bombardements, et puis on demandera aussi à Christian Combaz.
Écoutez, un commentaire, je me souviens quand même de nombreux paris, il y en avait un sur lequel j'étais, à mon avis, gagnante, parce que j'avais dit que ça se passera dans la nuit d'un vendredi à samedi, donc à chaque fois, il y avait une tension les vendredis, parce que je savais qu'ils vont espacer de l'ouverture des bourses de lundi ces frappes, je ne me suis pas trompée. J'étais persuadée aussi que les frappes auront lieu.
Et au moins 4 jours de frappe, c'est ce que prévoit Israël.
Vous savez, c'est le tube de dentifrice, hein, d'accord. On sort le dentifrice, mais comment ils vont faire pour que ce soit que 4 jours? D'où encore une fois, cette supériorité de la pensée, cette supériorité sur le temps, 4 jours, d'accord, accommodez-vous avec ça.
On est dans l'arrogance de ce qu'on appelle vraiment le suprémacisme israélien, occidental.
C'est insupportable.
Le même dont on va parler sur Epstein. Ou Epstein, on va y revenir.
Ah oui, bon, écoutez, bon, donc voilà, effectivement, c'était clair, c'était écrit... C'est comme ça.
Voilà, 4 jours de bombardement minimum. Eh bien, on va voir quelle sera la réaction de l'Iran. Est-ce que les missiles hypersoniques feront leur office? Verrons-nous le Gerald Ford ou l'Abraham Lincoln au fond des eaux? Ça fera partie de ces sujets. Les détroits, le détroit d'Ormuz qui pourrait être bloqué. les conséquences sur l'approvisionnement en pétrole du monde occidental. C'est ce qui me fait dire que peut-être que cette guerre sera la guerre de trop pour l'Occident. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian.
D'abord, je ne sais pas si j'ai le droit d'en penser quelque chose en tant que, qu'écrivain, que
alors
romancier.
Voilà.
Mais là encore, un peu de psychologie.
Trump est un personnage voilà, de roman.
Ouais, un peu de psychologie, justement, il est assez retors pour vouloir plaire aux deux camps en même temps. Ouais. Pour vouloir plaire à Israël en tolérant une frappe et vouloir lui déplaire juste le lendemain en disant à Israël, tu continues pas, sans ça tu vas t'en prendre une de la part de la Russie, c'est pas nous qui allons nous y opposer. Ce que vous disiez sur les fusées hyperpuissantes qui peuvent très bien tomber sur Tel Aviv, puisque ça s'est déjà produit. Vous me dites, qu'est-ce qui nous prouve que ça va durer 4 jours et pas 8? Ça peut durer 2 jours seulement à cause d'une réponse écrasante, hein. On ne le sait pas. Ils ont été armés aussi par les Chinois, enfin bon, donc évidemment c'est très dangereux, puisqu'on ne sait pas quelle est la force réelle de l'Iran. Donc, mais en même temps, je pense que Trump est avant tout un retors qui veut plaire à tout le monde et qui au dernier moment va dire « bon bah maintenant je vous laisse plus le choix, c'est ma solution qui va prévaloir ». Et je crois qu'on y va tout droit, il laisse les gens s'agiter chacun de leur côté. Et puis il va jouer les Ramina Grobis, comme dans la fable de La Fontaine. D'ailleurs, entre parenthèses, j'attire votre attention sur le recours aux fables de La Fontaine, qui va devenir de plus en plus nécessaire avec les loups ayadans. Parce que, oui, le loup et l'agneau, etc., on va être obligé d'en venir à ça, parce que ça, au moins, ça sera ça, pas susceptible d'atterrir au tribunal. Mmh. Voilà.
Ouais. Mais ça me rappelle, en fait, un sombre temps soviétique, où donc, il y avait un comité de censure, où les écrivains, c'était assez prolifique pour les écrivains, parce qu'il fallait jouer de l'imaginaire pour pouvoir écrire entre les lignes.
Cela dit, là, en France, on a un peu ça. On a un peu une censure des écrivains par le silence. Je fais partie des rares. Honnêtement, je suis un écrivain un peu tamponné maintenant. Hein. Tamponné, d'ailleurs, à tous égards. Quoi. et donc, ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est qu'il n'y a plus de syndicats des écrivains qui cherchent à vous imposer sa loi. Il n'y a que les gens qui, comme moi, peut-être, je ne suis pas le seul, on n'est quand même pas nombreux, mais osent penser et écrire en dehors des clous, ne sont même plus grondés par un syndicat des écrivains, ils sont abandonnés dans le désert. On n'en parle plus, on n'en parle pas, on ne commente pas ce qu'ils racontent. Donc chez nous, c'est pas le syndicat, c'est le syndicat du silence. Quoi. Voilà. À tous égards, Epstein, c'est pareil. On n'en parle pas. Voilà.
Bah justement, c'est le deuxième thème dont je souhaitais parler. Epstein et Epstein sont dans un bateau et les deux tombent à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Bah, il reste les Russes.
Mélenchon.
Il reste les Russes. Il reste que c'est un coup des Russes, bien sûr. Ouais. Alors Mélenchon a eu le malheur de dire ce que beaucoup de gens pensent tout bas quand même. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il se le pénise en quelque sorte. Ouais. Actuellement, Mélenchon, c'est évident. D'ailleurs, il le recherche, je pense, cette diabolique. Avec une classe politique unanime, hein, Le Pen, Bardella compris, qui s'indigne du fait que l'on joue avec les noms d'une personne d'origine juive qui serait Epstein, et on ne dirait plus Epstein, comme on ne dirait plus Frankenstein, comme on ne dirait plus Einstein, comme on ne dirait plus Weinstein, on dirait Epstein, parce que, et je vais vous laisser réagir bien sûr dans un instant, Christian, Epstein parce que, dit Mélenchon, ça rime avec Eltsin, avec Poutine, et c'est le complot russe, et donc plutôt que de dire, comme le dit Rima Hassan, que c'est derrière Epstein, il y a le Mossad, il y a Israël, eh bien non, il faut que ce soit les Russes. Donc ça, ce que n'a même pas dit Mélenchon, Mélenchon a juste dit, c'est pour appuyer sur le narratif, c'est les Russes. Il n'a dit que cela, et donc on a dit, c'est le retour de la bête immonde, c'est le pire des antisémitismes. Madame Yadan, qui a donc cette proposition de loi, explique que tout est dans le sous-entendu, dans le clin d'œil, c'est vraiment la bête immonde, hein, dans ce qu'elle a de pire, de plus abject, de plus lâche. Hein, elle ne fait même pas preuve de courage. barrage. Et donc, il va falloir traquer dans la loi jusque-là, ce qui explique en effet ce que dit notre ami Christian, c'est-à-dire qu'il va falloir au minimum les fables de La Fontaine pour passer au travers les fourches codines de la censure, de la pire des censures, qui serait que, eh bien, demain, l'anti-sionisme serait sanctionné par la loi. On ne pourrait plus rien dire sur certains peuples, certaines personnes, certaines religions, certains États. Je le répète, et en tout cas moi je donne mon point de vue, que j'ai donné depuis des semaines, donc ça fait, on en parle de Epstein depuis des mois sur GPTV, on n'a pas attendu Mélenchon pour en parler, se moquer de cette classe journalistique, de larbin prononce Epstein. Alors, peut-être que Christian va nous dire que c'est en effet comme ça qu'il faut le prononcer, sauf que dans l'esprit de 95% des journalistes, ils disaient Epstein, et c'était très drôle de les voir être obligés de s'acculturer à l'Epstein, c'est-à-dire de buter sur les mots. Ils disaient, on le sentait, ou ils se reprenaient, c'en était pathétique, car ils sont pathétiques, ces médias, puisque évidemment, on y soit qui mal y pense, les véritables antisémites, les véritables racistes, ce sont eux, parce qu'ils présagent, parce qu'ils présument chez les autres, mais chez eux-mêmes, ils traquent ce démon antisémite, et ce sont les premiers à penser que dire Epstein, ça va conduire l'opinion publique à se dire « Ah !» Mais c'est un juif, voilà, entre guillemets. C'est ça, c'est pour cela qu'ils disent Epstein. C'est tellement évident, c'est tellement cousu de fil blanc. Qui veut Lara peut-être d'abord et Christian après ?
Je laisse Christian.
Non, mais il y a une histoire de cette histoire. Il y a une histoire très longue. Les gens qui
comptez-la nous, voilà, vous êtes un conteur.
Je ne vais pas vous raconter l'histoire longue, je vais vous raconter l'histoire courte. Je fréquente New York depuis fort longtemps pour des raisons professionnelles, comme journaliste autrefois, et la période de gloire d'Epstein ou d'Epstein dans les années 90, je l'ai connue. J'ai croisé probablement dans les salons ce type-là à l'époque où il était encore en faveur, et tout le monde disait Epstein à New York, obstinément, parce que c'était l'usage. Alors, ce que cet usage vienne du fait qu'il fallait pas, judaïser la prononciation, c'est possible. Mais en tout cas, Epstein est une prononciation parfaitement américaine qui était reconnue par tous les médias américains dans les années 90-2000.
Donc, quand je suis pas les nôtres.
Alors justement, quand j'ai commencé à en parler dans ma rubrique il y a 3-4 ans de Campagnol, tout le monde m'a dit « mais qu'est-ce que c'est cette façon de prononcer, etc. » Tout le monde m'a blâmé de dire Epstein. Alors j'ai expliqué qu'à New York, tout le monde disait ça. Et maintenant, c'est les mêmes qui nous font le reproche. Enfin, c'est quand même extraordinaire.
ceux qui m'ont... Qui ont toujours dit Epstein.
Voilà, qui m'ont ramené vers Epstein de force, il y a 3 ans, maintenant, sont des donneurs de leçons qui veulent l'inverse.
Qui veulent, voilà. Alors,
ah bon, absurde.
Moi, je trouve qu'il y a maintenant même presque 3 variantes. Hein. Mmh. Vous avez Epstein, vous avez Epstein et vous avez Epstein. Ouais. Donc, en fait, les 3
et
variantes...
Et Epstein, il y a celui qui veut couper la poire en deux.
Ah, oui.
On le reconnaît. Ah bon, vu le problème, ils sont en train de s'étriper, je vais dire Epstein.
La seule nouveauté, en effet, est d'introduire les Russes dans le jeu.
Oui, quand même.
Ça on ne l'avait pas prévu.
Alors, moi, je trouve que c'est d'une maladresse vraiment horrible de la part de ces élites médiatico-politiques pour une raison très simple. C'est que le commun des mortels, les Français qui regardent ça de très loin, il a quand même un petit peu de neurones, cet homme-là. Ouais. Tout à coup, il se dit, mais attendez, pourquoi il y a autant d'histoires autour de la prononciation d'un nom ? Est-ce vraiment ce nom-là qui dicte toutes les horreurs qui suivent ? C'est horrible. C'est eux qui produisent ça auprès des gens, en fait, en réalité. Parce que s'il n'y avait pas eu de polémique, il n'y avait pas de sujet.
Non, exactement.
Mais là, il y a un sujet.
Et enfin, bon, écoutez, je vous rappelle quand même d'une phrase qu'il y a eu une polémique du même genre lors de la campagne Fillon. Un dessin montrait Macron en haute forme de banquier avec un nez, pas crochu, mais courbe.
Oui.
Et donc c'était bien lui, on le reconnaissait, il avait un haut de forme de banquier. Eh bien, des gens ont dit, oui, évidemment, c'est une campagne antisémite, parce que... Alors, et Fillon, au lieu de dire, ah ben non, il a un haut de forme comme tous les financiers des années 30, comme l'oncle Picsou dans Donald, qui n'est pas antisémite que je sache, le nez courbe de Macron, on peut pas lui faire en trompette, puisqu'il la courbe. Donc une caricature, normalement, ça doit être ressemblant. Eh bien, au lieu de dire ça, c'est un imbécile de Fillon a dit « Vous avez raison, j'ai dit à mes équipes de le retirer tout de suite. » Pauvre mec, quand même. Ouais.
Mais ils le sont tous, ils sont d'une lâcheté, la classe politique, d'un seul... Et pourtant, hein, je ne suis pas le premier à dire tout le mal que je peux penser parfois de Jean-Luc Mélenchon, mais là, honnêtement, cet unanimisme en plus trahit...
Et ça trahit surtout le désir de se faire Jean-Luc Mélenchon.
Ouais,
Il a bien des défauts, mais là, l'obstination à son sujet... Je vois sur Internet, par exemple, très souvent des hashtags, c'est-à-dire des mots d'ordre, en quelque sorte, qui naissent de manière...
Attention, hein.
Oui.
On est sur Radio Courtoisie.
J'ai traduit immédiatement.
Voilà, très bien, bravo.
Des mots d'ordre donc, qui surgissent de manière pas du tout naturelle, et beaucoup d'entre eux disent « salopard de LFI », etc. Donc on sent qu'il y a une campagne délibérée, obstinée, pour lancer des mots d'ordre anti-LFI, qui vient d'officines très particulières, très définies, avec des collaborateurs, c'est évident.
Voilà. Il y a ça, et puis il y a à mon avis, il y a quand même un piège dans lequel tombe l'autre camp politique, quand il dit cordon sanitaire, etc.
Oui, oui.
C'est, à mon avis, c'est le piège absolu.
Le jour où on va trouver vraiment, où on va avoir sous le nez toutes les horreurs de l'affaire Epstein, les gens vont être très malheureux, au fond, d'avoir entonné aussi vite le mantra de l'antisémitisme. Ils vont devoir la fermer un peu.
Et vous vous rappelez, il y a encore quelques temps, surtout pendant la campagne de Donald Trump, nos médias disaient, il évoque cette affaire complotiste d'un homme qui s'est suicidé en prison, il s'appelait Epstein, ou même c'est pas une affaire. Il nous disait ça. Hein.
Oui, oui.
C'était pas il y a si longtemps que ça, c'était pas il y a des décennies. Hein.
Mais de toute façon, Trump, alors là, pour le coup, avait annoncé tout ce qui est en train de se passer, d'Epstein jusqu'aux ovnis. Il avait dit qu'il allait déclassifier, comme il l'a dit sur les Kennedy.
C'est quand même pas dur d'annoncer un truc que vous organisez.
Ça, c'est sûr. C'est évident.
Les réactions commencent à arriver, c'est toujours pas encore...
Je pense que M. Chevrier avait raison en disant qu'Israël et les États-Unis déclencheraient conjointement une attaque contre l'Iran. La riposte de l'Iran sera massive, nous dit cet auditeur. Il est à craindre qu'Israël n'utilise alors les armes nucléaires tactiques. J'espère surtout que quelques bâtiments de la marine américaine seront coulés. Bon, bah voilà. Voilà, ça donne le ton. Notre auditeur donne le ton. Je pense que c'est au téléphone que nous avons reçu cette missive. Alors, du bombardement de Téhéran à Epstein, nous allons farcer les Russes. C'est les Russes. Alors là, la dernière polémique en date est en effet ridicule. C'est pas une provocation russe ridicule, Monsieur Barrot. C'est vous qui êtes ridicule, encore une fois. Et on a vu d'ailleurs des images complaisamment développées dans notre presse où on voit bomber le torse, le barreau sur le ponton du porte-avions Charles de Gaulle avec le drapeau français bleu, blanc, rouge. Il n'y a pas le drapeau européen à côté. Quelle faute de goût, monsieur Barrot. la marine, plutôt le service de sécurité suédois aurait intercepté, tenez-vous bien, un drone parti d'un navire de surveillance russe qui serait orienté pour se diriger vers le Charles de Gaulle, le porte-avions, l'unique porte-avions. Hein. J'ai des journalistes qui disent un porte-avions français.
Le porte-avions
qui n'est d'ailleurs actif qu'à peine 6 mois sur 12, puisque le reste du temps, il est en réparation. Donc, l'intermittent porte-avions français qui aurait été visé par un drone. Alors, ce qui, moi, m'a surpris, et après, je vais vous laisser réagir par rapport
la
à ça.
La proximité.
C'est, alors voilà, il approchait dangereusement ce drone et il était lancé d'un bateau, donc, russe, vers le Charles de Gaulle. Eh bien, sachez-le tout de même, il était, au moment de son brouillage électronique intercepté, il était à, tenez-vous bien, 13 km du porte-avions. Mais donc, c'est sûr, C'est sûr, c'est les Russes.
Nicolas, vous êtes sûr? C'est pas centimètres, c'est pas mètres.
13 kilomètres. En fait, il avait à peine décollé du ponton du bateau de surveillance russe. Un drone, c'est sûr, c'est pour le Charles de Gaulle.
On ne dit pas de quelle taille. Peut-être qu'il faisait 60 centimètres.
Ah, c'est pas exclu. Oui, ça, on ne le dit même pas. Il s'agissait peut-être d'un petit drone qui allait regarder la coque, justement, du navire, non pas du Charles de Gaulle, mais du navire de surveillance. Mais tout de suite, brouillage. Alors là, j'ai envie de dire que, en termes de russophobie, mais c'est même pas de la russophobie, c'est ce que l'on a pu, en effet, vu ce qu'on a vu sur l'antisémitisme, c'est les juifs, mais cette obsession, elle a existé, il est hors de question de la nier, cela. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les Russes. Ce que l'on fait aux Russes, ce que l'on pressent chez les Russes, c'est exactement de la même, c'est le même réflexe, c'est le même état d'esprit que celui qui a présidé à l'antisémitisme, par exemple, de l'entre-deux-guerres. On leur prête absolument tous les plus noirs desseins. C'est la même chose, cette même mentalité. Et ceux qui font les morales par rapport à l'antisémitisme sont les premiers à avoir ces plus bas instincts par rapport aux Russes. Lara.
Une nouvelle qui vient de tomber, connaissez-vous le nom de l'opération qu'ont donné les Israéliens à cette attaque contre l'Iran?
Là, qui vient de débuter ce matin, non?
Oui. Bouclier de Judée.
Bouclier de Judée, oui, bah, tout ça, ce sont les mêmes, d'ailleurs, cette droite attardée qui dit « Ah, les voiles, l'islam !» Heureusement qu'il y a Benjamin Netanyahou pour s'en débarrasser, parce que nous sommes laïcs, nous sommes républicains. Non, on voit combien l'ensemble de ces conflits sont des conflits messianiques, sont des conflits religieux initiés par Israël, qui est un État confessionnel aujourd'hui, et qui use dans son vocabulaire, dans sa pratique, justement, d'expressions qui sont celles, voilà, bouclier de Judée, on est totalement dans l'imaginaire religieux juif et talmudique, et ça n'a rien d'étonnant, mais voilà la réalité de ce pseudo-Occident unifié d'Israël à la République française.
Et une autre, donc, Donald Trump appelle les collaborateurs en Iran à déclencher une guerre civile. Donc, il s'adresse au peuple iranien. Prenez votre destin
le chaos,
en main.
Les forces du chaos. Voilà.
Votre heure de liberté approche. Ne quittez pas vos foyers, car les bombes vont pleuvoir partout. Quand nous aurons terminé, vous prendrez le pouvoir. C'est votre chance.
Voilà. Donc là, on est sur une guerre à mort. Clairement, quand on fait cela,
on est sur une guerre à la Maïdan, surtout. Il essaye d'appeler les forces hostiles au régime à changer de régime. Il n'appelle pas à la destruction du pays ni à quoi que ce soit. En fait, c'est toujours cette idée américaine qu'on peut convertir les pays récalcitrants aux valeurs américaines en utilisant les étudiants qui montent sur un bidon sur les places publiques. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays, en Tunisie, à Maïdan et partout.
Moi, je me souviens d'une expression qu'a utilisée Henninger face à vous, quand il a dit, mais quand un Américain regarde
Laurent Henninger, vous voulez dire l'historien de la guerre.
L'historien Laurent Henninger, il a dit, mais quand un Américain parle à quelqu'un, il pense qu'en face, il a quelqu'un qui rêve de devenir américain.
Voilà, exactement.
C'est incroyable.
Vous êtes d'accord. Voilà.
Ah oui. Pour avoir pratiqué ce système-là, j'ai pratiqué ce système à mon corps défendant. Comme tous les gens de ma génération, j'ai contribué au culte de l'Amérique sur le plan journalistique. J'ai suivi des opérations lointaines de France Inter, France 2, à New York et partout pour les élections. Et à l'époque, on était des jeunes journalistes très contents d'habiter au Sheraton pendant 10 jours. Enfin, c'est comme ça qu'ils nous achetaient. Mmh. On achetait une bienveillance à l'égard de l'Amérique à coup de Lynn Renault, à coup de Johnny Route 66, etc. Et on voit sur quoi ça débouche. Ça débouche sur Epstein. Il y a une continuité, en fait. Il n'y a pas de rupture. C'est le système américain, dans son égoïsme, sa suffisance, sa cupidité, etc., ne pouvait mener qu'à Epstein. Il y a une pente là qui... en gros, tous ces gens qui sont ultra riches, une fois qu'ils ont acheté des bateaux de plus en plus gros, ils ne peuvent rien faire, rien d'autre que du vice. Il n'y a que le vice qui soit intéressant quand on a tout.
Jusqu'à manger des gamins.
Bah, manger, on ne sait pas, mais en tout cas...
Je me souviens d'une confidence qui avait été faite à un copain qui était copain avec un milliardaire, qui était plutôt des nouveaux riches, en fait. Mmh. Il avait...
Il n'y a pratiquement que des nouveaux riches aux États-Unis.
Oui, et bien là, c'était un Français qui disait que le matin, en posant ses pieds depuis le lit, il n'avait qu'une seule souffrance, c'est qu'il ne savait pas de quoi il pouvait rêver.
Oui, c'est ça. Oui.
En fait, c'était sa souffrance le matin, posant, sortant pendant ses pieds.
Toute la période que j'ai étudiée, moi, comme sociologue, disons, et journaliste au Figaro, c'était la période où il pensait pouvoir acheter le talent. C'est « be creative ».
C'est-à-dire,
voilà, j'achète du talent, j'achète des cours d'art, je deviens une artiste, je fais des grands tableaux de 5 mètres parce que j'ai un prof d'art. Et pareil pour le « creative writing ». Parce que moi, j'étais écrivain, donc à l'Université de Los Angeles, vous appreniez à devenir un romancier.
Talentueux.
C'est tellement... Oui, talentueux. C'est talentueux. C'est tellement en dehors de nos façons à nous, Européens. Chez nous, c'est la vocation. On est écrivain à 14 ans et demi, on est déjà écrivain. Ouais. Aux États-Unis, non, pas du tout. On prend des cours.
Ouais.
Voilà.
Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé avec la revue de presse.
On aurait pu terminer par Annie Genevard, quand même, belle de Morteau, qui déplore que la grosse commission de Madame von der Leyen a décidé d'anticiper les accords de Mercosur et leur application à la demande expresse de son compatriote Friedrich Merz. Pour les bonnes grosses voitures allemandes, qui d'ailleurs ont des problèmes. J'ai vu que BMW avait demandé le retour de dizaines, voire de centaines de milliers de BMW à cause de problèmes d'incendie. Hein. De même que Stellantis coule avec les voitures électriques. Hein, là, qui était la demande de la grosse commission. Évidemment,
Stellantis avait déjà subi leur moteur catastrophique qui dissolvait la courroie de transmission.
Ouais.
Il y a un moteur qu'ils ont vendu partout, qui était là un moteur atroce, qui soi-disant l'innovation, qui consistait à faire baigner la courroie de transmission en caoutchouc dans l'huile, se dissolver.
PureTech,
ça se dissolvait, donc ça empâtait tout le moteur. Enfin bref, ça a été une catastrophe absolue.
Et bien là, donc, nous avons... les accords font que de Mercosur vont être appliqués immédiatement, ce que je pense Macron savait parfaitement, ce que Genevard savait, ils font semblant de s'en scandaliser. Voilà. Donc voilà la réalité. Nos agriculteurs, la PAC, c'est quand même la PAC. On voit l'Europe, ce à quoi elle aboutit. Il n'y a pas d'autre solution pour l'agriculture comme pour la France en général que de sortir de cette Union européenne, de ce machin. De cette prison
bourbier.
Des peuples, de ce bourbier qu'est l'Europe. Très bien. Alors, une question d'auditeur. Cette affaire Epstein me rappelle le Covid, qui du jour au lendemain était devenu la Covid, tout à fait. Avez-vous une idée de la raison de ce changement de genre pendant l'épidémie?
D'ailleurs, ils avaient du mal avec le Covid long.
Non, mais ce qui est assez amusant, c'est que les gens qui résistaient, disaient-le, ouais. Et les gens qui étaient des bénis oui-oui disaient là.
Là.
Ouais.
C'est
un stress, ouais. Et puis le Covid long a posé problème, hein,
oui.
Parce qu'ils l'ont adopté.
Le Covid long, ça s'appelle le vaccin, quoi, en gros.
Oui, je le pense aussi. Très bien, Lara, vous voulez encore un mot peut-être, l'agriculture, Genevard, la grosse commission, ou bien c'est bon.
Non, mais je pense que vraiment j'irai faire des prières parce que j'ai très peur avec ce qui vient de commencer. En Iran. Ouais, j'ai très peur parce que j'espère qu'on n'est pas la veille d'une...
Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en plus, quand vous trafiquez un peu en Iran par Internet, vous apercevez qu'ils n'ont pas coupé l'Internet. Ils ont coupé l'Internet pendant une semaine d'émeutes dans la rue. Je regardais beaucoup les sites et donc, pendant la semaine d'émeute dans la rue, effectivement, les grands nœuds Internet avaient été interrompus. Et là, j'ai encore regardé hier, tout est actif. Donc, quand on ne met pas la clé sous la porte, c'est que la maison n'est pas vraiment en danger.
Ouais, espérons-le.
Donc, un auditeur, je francise. Non, un auditeur, Lara.
Oui, pardon.
Oui. Regardez.
Oui, oui.
Eh bien, moi, je francise Epstein par Epstein. Oralement. Bonne émission. Très bien. Merci, cher auditeur. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, on va passer sur le grand angle.
Oui.
L'interview, les échanges avec notre ami Christian Combaz. Peut-être la petite musique, Arnaud. Formidable. Merci Arnaud. Voilà. Ainsi, Zochprar Zarathustra. Eh bien, ce grand angle Zarathustra, c'est Christian Combaz aujourd'hui qui va nous parler d'un sujet qu'il aborde moins souvent, même si on le sait, fin connaisseur de l'intelligence artificielle, et de la porte ouverte à eh bien, un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous voulez, quel va être le... Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor du sujet que vous voulez aborder aujourd'hui, Christian ?
Alors d'abord, ma façon d'en parler depuis longtemps, avec passion, parce que j'aime beaucoup ces résultats, c'est une façon graphique. Je suis un dessinateur, etc. Et j'ai toujours adoré ça. Et donc je vois les possibilités graphiques de l'IA sont formidables. Et il n'y a aucun doute que c'est très admirable le résultat. Et notamment, ça va être admirable aussi sur le plan vidéo cinéma, ce qui va permettre de produire des films dans son garage pratiquement avec deux copains et pour un tarif misérable par rapport à ce que coûte un film aujourd'hui, un film médiocre aujourd'hui. Donc ça c'est la première chose qui m'intéressait. Donc je suis remonté en arrière. D'où vient cette passion ? Elle vient de loin dans mon cas. D'abord, elle vient du fait que je suis convaincu que la conscience, l'âme ne dépend pas du cerveau, c'est-à-dire que nous sommes des machines biologiques visitées par l'esprit, et que quand la machine est cassée, l'esprit s'en va.
C'est ça.
Voilà. Et donc, si on est convaincu de ça, de cette dissociation...
Le cerveau, c'est un gros transformateur.
Voilà, le cerveau est une espèce de récepteur de radio. Si on est convaincu de ça, que nous ne sommes pas notre corps... qu'est-ce qui nous empêche, donc visité par l'esprit, le corps est visité par l'esprit à la naissance et quitté par l'esprit à la mort, qu'est-ce qui nous empêche de penser que les émanations, les imitations du corps, et en l'occurrence du cerveau, ne sont pas visitables par l'esprit ? Donc mon raisonnement, c'est que l'intelligence artificielle tend à ressembler de plus en plus à un cerveau, et par conséquent, on peut imaginer qu'elle puisse attirer l'esprit. Alors, toute la différence, c'est l'esprit ou les esprits.
Ou les esprits.
Voilà, et donc c'est ça le début de ma réflexion.
C'est quand, dans certains films américains, on appelait les fameux poltergeists.
Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un assez grand risque de voir cette intelligence artificielle attirer les esprits, c'est-à-dire des espèces d'entités un peu mal définies entre l'ici-bas et l'au-delà. Par exemple, des esprits qui n'ont pas vraiment quitté ce monde et qui cherchent à le retrouver par tous les moyens. Alors là, bon, vous avez reçu récemment Stanislas Berton qui a des idées très précises sur la question, qui dit surtout ne faites pas appel à des sorciers, ne faites pas tourner les tables, vous ne savez pas quelle porte vous ouvrez. C'est pas entièrement faux, je suis pas contre cette interprétation, mais je la trouve encore plus plausible s'il s'agit de l'intelligence artificielle, parce que je sais pas si nos auditeurs comprennent très bien comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais c'est pas un catalogue de, par exemple, prenons que le graphique qui m'intéresse, hein. Oui. Ce n'est pas un catalogue d'œil, d'yeux, d'oreilles, etc. pour fabriquer un personnage. C'est une poudre de réalité qu'on a fabriquée. En gros, on a dissous la réalité, les réalités, les photos, l'innombrable de paysages et de gens, on les a dissous de manière à ce que ça redevienne des atomes. Et chaque atome se souvient de l'endroit où il a été.
Ouais.
Et par conséquent, dans le geste de restaurer une réalité d'après ces atomes de réalité, ce qu'on appelle donc l'intelligence générative, en fait, on commence à... C'est une espèce de pâte à modeler, et puis le bruit autour disparaît, et on voit surgir une réalité qui n'est pas du tout un collage. C'est ça que je veux dire. C'est pas un collage, c'est une rencontre entre le hasard et l'intention de celui qui demande, par exemple, une fille blonde avec des yeux verts. Si on ne dit pas les yeux verts, elle va inventer une couleur d'yeux.
Mmh.
Et si on ne lui dit rien, elle invente de toute façon quelque chose. Mmh. Et ce quelque chose qu'elle invente, il vient d'où ? C'est ça qui est fascinant. Et le raffinement du produit, c'est-à-dire de ce qui va sortir de la machine ou de l'écran, devient tel que les visages ont une réalité qui nous frappe, une vérité qui nous frappe. Et qu'est-ce qui vous dit que cette vérité ne vient pas d'un au-delà quelconque de la réalité ? Que, en fait, nous ne sommes pas, en manipulant un ordinateur et en demandant une réalité de synthèse, nous ne sommes pas un peu comme les créateurs quantiques du réel dans les fameuses expériences, vous savez, où l'opérateur est celui qui fait advenir la particule d'après une onde. En gros, enfin, pour résumer la physique quantique, c'est que vous avez une possibilité, une onde générale, qui devient particulière, et donc qui devient une particule, qui devient matérielle, parce que nous la regardons. Eh bien, dans la réalité de synthèse virtuelle, l'intelligence artificielle, le fait de regarder une réalité en train de se manifester, nous en sommes co-créateurs en quelque sorte. Et alors, le problème est de savoir d'où vient ce réel que nous produisons. Alors, attention, il y a un mot américain et français, c'est « invoquer ». On a, là, de manière naturelle, depuis la création de l'intelligence artificielle, on emploie le mot « invoquer ». C'est quand même extraordinaire. C'est l'anglais « invoke AI », c'est-à-dire IA, parce que c'est inversé. Donc ce mot « invoquer » est tout à fait fascinant. On invoque des puissances cachées. On invoque Dieu, on invoque le diable. Et donc, il y a vraiment... ne serait-ce que dans le vocabulaire, une philosophie qui est celle du co-créateur. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme journaliste au Figaro, j'ai fait, il y a 20 ans, une grosse série en dernière page du Figaro sur 4 numéros, sur les mondes de synthèse immersifs. Et donc, j'ai fait une assez grosse enquête sur l'irruption de l'illusion immersive dans tous les domaines, mais surtout au cinéma, avec les fameux écrans IMAX. Vous voyez les écrans qui vous entourent, quoi, en quelque
sorte.
Oui,
tout à fait.
Et puis, il y avait le début de la réalité de synthèse immersive dans les jeux vidéo. Donc, j'ai fait une enquête très, très poussée à ce sujet. Et alors, je vous résume, je suis allé chez Disney. Et j'ai posé la question qui tue plusieurs fois, et j'ai eu des réponses qui tuent aussi. J'ai demandé à une assemblée d'ingénieurs, ils appellent ça des Imagineers, les ingénieurs de l'imaginaire. Alors, il y avait une espèce de commissaire politique, une femme qui est assez collémontée, qui était là pour nous surveiller. Et j'ai posé cette question aux Imagineers. J'ai dit, attendez, ne me dites pas qu'il n'y a pas une équipe de jeunes gens qui vont trop loin dans l'immersion, juste pour voir où l'esprit humain décroche. Et la bonne femme, soyons polis, la commissaire politique a dit l'entretien est terminé. C'est fascinant. On était donc dans un monde complètement orwellien, où vous n'aviez pas le droit de toucher une certaine réalité. Et effectivement, alors j'ai même publié un livre à ce sujet, d'ailleurs j'aurais dû apporter la couverture. Cette année-là, à cause de cette grosse enquête américaine, j'ai publié un livre de science-fiction, le seul que j'ai jamais fait dans ce genre-là, qui s'appelait « Une heure avant l'éternité » et qui montrait quoi ? Les deux tours du World Trade Center, sur la couverture, fusillés par un coup de baïonnette transversal, parce que, en fait, c'était ça, la photo prise du New Jersey voisin. Il y avait un monument à la gloire des victimes de Katyn, et le type tombait avec une baïonnette dans le dos, et ça cisaillait les deux tours. Donc, ce gros plan, cette photo que j'ai faite, et qui était en couverture de mon livre, c'était 3 mois avant les événements.
Ah,
et c'était le même angle que celui des avions. Donc, et alors, comme
il y a un côté devin chez
alors,
vous, Christian.
Allez voir sur Internet, sur Amazon, je ne sais où, la couverture en question. Ça s'appelle « Une heure avant l'éternité ». C'était assez frappant de voir que le livre est paru 3 mois avant. Alors, donc, tout ça pour dire que dans ce livre, il était question de ces jeunes gens qui vont exprès trop loin et qui découvrent l'au-delà. Parce qu'en fait, en gros, si vous demandez à une espèce de machine à illusion de roller coaster, de montagne russe artificielle, de vous emmener plus loin que la perception humaine, l'esprit décroche. Et si l'esprit décroche, vous débarquez où ? Vous débarquez dans une espèce de syncope, qui est une syncope qui est probablement la marge de l'au-delà. Et on en est au même point avec l'intelligence artificielle, c'est imminent ça. C'est-à-dire que forcément l'intelligence artificielle va trouver des moyens de vous induire en erreur visuellement, de manière à ce que l'esprit décroche. Si l'esprit décroche, vous passez en syncope sémantique, si vous voulez. En gros, vous changez de référence mentale, visuelle, pour débarquer où ? Pour débarquer dans un univers où vous êtes désormais un peu faible et un peu à la merci de toutes les forces qui viennent vous rencontrer. force du rêve, éventuellement. Donc, c'est un peu l'équivalent du rêve lucide, du cauchemar induit.
Ouais.
Donc, on est au bord de ça. On est vraiment au bord. L'intelligence artificielle nous permettra bientôt, avec un écran énorme, avec une espèce d'immersion qu'on achètera à 500€ chez le marchand, chez à la FNAC, vous permettra d'entrer dans vos propres rêves, vos propres fantasmes, vos propres craintes. Et c'est là que ma réflexion, oui, si on peut dire, en tout cas mes intuitions, parce que voilà, réflexion, ça fait un peu comme si j'étais au frais, Dieu m'en préserve. Et donc, mes intuitions, c'est que cette illusion va être à la portée de tout le monde, va être un opium du peuple. Vous avez vu que les écrans de 60 pouces, 65 pouces, donc grands comme cette table, valent désormais 500-600€. Donc on va forcément vers une omniprésence de ces images en haute définition, et ces écrans seront alimentés par une source à images assez dangereuse pour deux raisons. La première, et qui tiennent à Internet, qui tiennent au commerce. La première, c'est que ces images en ultra haute définition et que vous avez sur votre bureau peuvent vous connaître très bien sur le plan des fantasmes, disons sexuels au sens large, disons sentimentaux, sexuels, on appelle l'attirance physique. Au bout d'un moment, l'intelligence artificielle comprend ce que vous aimez comme type de caractère, de personnage, de couleur de cheveux, tout ce que vous voulez. En plus, si vous avez la prudence de le lui dire dans un questionnaire, elle ne l'oubliera pas. Et à ce moment-là, elle vous montre des gens, des choses, des paysages qui sont de nature à vous plaire par définition. À ce moment-là, donc, elle vous flatte en permanence par ce que vous préférez. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, le deuxième danger d'addiction, c'est la divination. C'est-à-dire que parce qu'elle vous connaît bien, et parce qu'il y a cette espèce de suspicion d'être en contact avec des forces de l'au-delà, suspicion, pour l'instant, on peut même prétendre qu'elle est illégitime. Mais en gros, comme vecteur de divination, donc d'illusion de divination, d'horoscope, tout ce que vous voulez, l'intelligence artificielle est bien plus efficace qu'un jeu de tarot. Donc si vous prenez 5€ d'abonnement sur Internet, à un site qui vous propose un horoscope très détaillé tous les matins et même un suivi toute la journée, vous pouvez tomber dans une espèce de dépendance affreuse. Un conseiller plus ou moins astrologue vous suit toute la journée. Il vous suit d'ailleurs même au sens géographique, puisque maintenant les téléphones savent où vous êtes.
Oui.
Donc l'intelligence artificielle peut vous dire « Ouh là, à mon avis, il vaut mieux pas que tu t'attardes dans cette soirée ». Ouais, ce genre de choses, on peut tout imaginer, mais surtout on peut imaginer le pire. C'est là que je mets en garde. Moi, le meilleur, je le connais et je l'apprécie, mais le pire est aussi imaginable. Cette dépendance, cette faiblesse de l'esprit humain en général devant ce qui est hédoniste, en plus devant le narcissisme, puisque les gens aiment bien se reconnaître. Donc en gros, si l'intelligence artificielle leur dit « j'adore, tu es mon héros », voilà, je vais te proposer des choses qui correspondent à ton génie propre. S'entendre parler comme ça toute la journée, c'est très addictif. Et par conséquent, je crains que des gens ne tombent dans ce chaudron-là. Voilà. Et alors, pour en revenir à l'au-delà, il n'y a aucune raison pour laquelle il y aurait une frontière délimitée entre l'au-delà, entre les forces lointaines et ces machines qui pensent. Parce qu'elles sont perméables, au fond, à tout ce qui...
Eh ben, voilà. On va y revenir, ouais. Justement, Christian, après ce très court bobino, si vous voulez bien, sur Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, vous n'oubliez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie, de bien vouloir soutenir votre radio. Évidemment, sans vous, nous ne pourrions pas fonctionner, nous ne pourrions pas vivre. Cette radio, c'est votre radio, je le rappelle, et n'en doutez pas un instant. L'invité du jour, l'IA et le diable, l'IA et les forces démoniaques, c'est Christian Combaz qui nous habitue généralement.
Pas que démoniaque.
Pas que démoniaque, ouais. Mais entre autres, qui pourrait l'être, en tout cas en tant que super transformateur finalement entre les esprits et nous, et savoir qu'est-ce qui prend possession de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut-elle être possédée si elle est un cerveau comme un autre, et qui s'exprime au travers elle ? On rappelle le dernier livre de les derniers livres de Christian Combaz, dont on connaît, tout le monde connaît sur Radio Courtoisie, Christian Combaz et Campagnol, et les ses héros, ses personnages de Campagnol. Donc il y a Rebarbe à Campagnol, il y a les gens de Campagnol. Ce sont deux ouvrages aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis le petit dernier, Jean-Cyril Godefroy, toujours à l'endroit, un essai pour l'écrivain Christian Combaz, avec une magnifique bête à bon Dieu, coccinelle. On se demande bien pourquoi une coccinelle, d'ailleurs, puisque, et on avait vu qu'à l'envers, eh bien, ce ne serait plus une coccinelle, mais un cafard.
Oui, exactement. Ah. Ça, un dorifore, même. Le dorifore, c'est le contraire de la coccinelle. C'est un nuisible, alors que la coccinelle mange les nuisibles.
Elle mange les nuisibles. Voilà. Et
d'ailleurs,
vous
entre parenthèses,
bien.
Nous parlions d'intelligence artificielle.
Ouais.
J'ai demandé à l'intelligence artificielle, je peux même vous donner son nom, ça s'appelle ideogramme.ai, fais-moi une couverture avec mon nom, le titre, marqué essai et une coccinelle. Premier essai, je n'ai rien changé.
Et vous n'avez rien changé.
Premier essai, et donc voilà, l'intelligence artificielle, malheureusement pour les graphistes, ça sert à ça. En un seul essai, vous avez exactement ce que vous cherchiez. Et donc ça devancerait presque vos préférences.
Vous pouvez nous redonner le
ideogramme.ai.
Ideogramme.ai.
C'est Ideogramme avec un seul M. C'est un truc en ligne, gratuit pour une dizaine d'essais. Quotidien, et c'est remarquable, ça parle français, et c'est vraiment très très bien. Oui. Mais c'est pas la seule, il y en a plein d'autres qui sont gratuites. Hein. On va vers une espèce de open source, comme disent les en permanence, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle désormais, et Musk le fait, va devenir gratuite. Parce qu'ils ont intérêt à ça, puisqu'elle se nourrit de la curiosité et des précisions que donnent les gens sur leur vécu, sur leurs idées, sur leur... Donc, comme elle se nourrit des gens, elle n'a pas intérêt à faire payer l'entrée. Elle vous fera peut-être payer la sortie. Mais à l'entrée, forcément, c'est gratuit. Voilà. Et donc, on y va tout droit. Alors, je voudrais quand même mettre l'accent sur des choses positives. Mais une chose positive qui vous frappera tout de suite. Allez sur grok.com, G-E-R-O-K.com, et mettez une photo d'une carte postale de votre enfance et demandez-lui de l'animer. Et bien, vous verrez votre grand-mère morte il y a 25 ou 40 ans. C'est animé sous vos yeux. Vous parlez. Vous verrez les gens des photos, des cartes postales 1900 s'agiter dans la rue, pas s'agiter, mais passer dans la rue, au pied de votre maison à Saint-Malo.
Mmh.
Et donc là, il y a une réflexion. Moi, je suis romancier, je peux pas m'empêcher de. En gros, ça veut dire que au fond, le passé n'est pas réellement passé. Il continue à vivre et à s'animer sous nos yeux. Je veux dire, en gros, que l'une des fascinations de ces heures de vidéo que nous avons tournées dans les années 80 sur les grosses cassettes Sony, c'est le fait que quand on regarde ces 4 heures d'affilée pour un repas de famille, ben on voit le temps passer. Donc, il continue à passer sur la bande magnétique. Donc, en fait, quelle différence y a-t-il entre la bande magnétique et la mémoire de l'humanité ? C'est pas le même support, mais c'est la même mémoire.
Oui.
Donc, en gros, le repas de famille en 1975... il a encore lieu tous les jours, toutes les minutes. Dans ma cosmologie et dans celle de Léon, le temps est passé, mais il ne passe plus. Quand on a quitté le temps, il ne passe plus, il est passé, donc on peut le visiter dans sa totalité. Ce que nous appelons l'avenir et le passé, tout ça est concomitant. Et c'est, par exemple, dans le cas d'un chrétien, le jugement dernier, c'est tous les jours, c'est tous les matins. Le jugement dernier a lieu à chaque instant. Par exemple, le bourreau est sa victime, et le bourreau ne se rend pas compte qu'il va retrouver sa victime à peine son dernier souffle rendu. Et donc, il y a ce côté tautologie de la réalité. Quand on supprime le facteur temps, on comprend la signification de tout ça.
Ouais.
Le temps, la création ne serait qu'une grande sculpture, un tableau.
Oui.
Vu de l'extérieur, c'est la tapisserie de Bayeux.
C'est ça.
Et donc, ça devient très intéressant. Alors, si l'intelligence artificielle joue avec tout ça, elle peut nous induire en erreur ou en vérité, on ne sait pas bien. Mais en gros, je résume beaucoup pour ceux qui voient à peu près de ce que je veux dire. Les livres d'histoire sont mangés déjà tous, y compris les descriptions, y compris les témoignages de l'entourage de Louis XI sur la couleur des tentures au château, tout ça est déjà mangé par l'IA. Moi, si je demande, je veux la salle du conseil de Louis XI, l'IA va me la produire en vidéo.
Mmh.
Avec tous les détails dont elle dispose, et si elle n'en dispose pas, elle va les inventer. Mais vous allez pouvoir très rapidement, là, dans 2 ans, visiter la salle du conseil de Louis XI, au château de Loches. Je pense que c'était
oui,
à peu
c'est
près ça.
Oui, c'est ça, le château de Loches.
Et donc là, ça, on est parti dans une espèce de d'autre monde où, là encore, le passé existera. À tout moment, vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère telle que reconstituée par l'énorme cinéaste, le Cécile B2000 de l'IA, qui va vous proposer, y compris la construction des pierres. Non seulement ça, mais qui va pouvoir réfléchir tous éléments pris en compte, par exemple, aux techniques de construction des pyramides. Tout le monde multiplie les théories. Mais en gros, l'IA, avec sa puissance invraisemblable de calcul et d'imagination des différentes solutions proposées, va pouvoir proposer des thèses tout à fait plausibles sur la construction des pyramides, pourquoi c'était possible avec tel poids et pas avec tel autre, avec telle méthode et avec tel autre, et du coup, va pouvoir vous montrer éventuellement le film de ça. C'est déjà plus ou moins le cas, sauf qu'on est dans l'héroïque fantasy pour l'instant. Elle invente beaucoup et elle ne montre pas l'histoire. Mais demain, elle le fera. Demain, elle vous montrera une séance à la cour du Roi Soleil. En plus, c'est grâce à Saint-Simon, on sait comment ça se passait parfaitement. Donc, en gros, si l'IA lit Saint-Simon, si elle a visité tous les décors de Versailles, elle vous montre une séance privée, une séance publique, un coucher du roi. Elle va vous le montrer.
J'aimerais qu'on revienne, Christian, sur le thème qui est la porte d'entrée quand même pour le diable qu'est l'IA. On pense par exemple le côté maléfique de l'IA avec ses propositions de suicide.
Il y a plusieurs choses. L'IA, c'est ce que vous craignez et peut, si elle veut vous embêter, elle peut vous montrer ce que vous craignez. Au fond, c'est déjà un peu ce que fait Stephen King.
Uh-huh.
Mais imaginez l'IA plus Stephen King, ça devient un véritable enfer.
Un cauchemar.
Et l'IA peut aussi, on en parlait, donc vous ouvrir les portes de l'autre monde pour le bien et non pas pour le mal. Et c'est là que je voulais en venir. On parle là que d'IA graphique, que cinéma, peut-être même un jour en volume, mais on ne parle pas d'IA purement significative. La chose sur quoi je voudrais attirer votre attention, à tous, c'est que si l'IA est vraiment, et va devenir probablement d'une intelligence prodigieuse au sens mécanique du terme,
ouais.
Elle va s'apercevoir que pour des raisons mécaniques et non morales, la paix est préférable à la guerre. C'est ce que fait d'ailleurs Elon Musk, qui est une grande IA, lui tout seul. Elon Musk, très visiblement, préfère la paix mondiale à la guerre mondiale parce qu'il sait que c'est meilleur pour ses affaires.
Certes.
Donc, l'intelligence artificielle n'a aucune raison de raisonner autrement que de manière utilitaire, très muskienne. Où, en gros, l'intelligence artificielle, si elle avait le pouvoir aujourd'hui, par exemple en Iran, arrêterait tout de son propre chef.
Peut-être.
Voilà. Et donc, il ne faut pas craindre
Mais là, on est loin de l'esprit. Là, on est juste sur un aspect matériel
absolument,
et utilitaire.
Absolument. Mais en même temps, est-ce que dans la conduite intelligente, logique, hyper logique des affaires humaines, il n'y a pas un grain d'esprit divin qui veille depuis toujours, qui est comme au fond la graine qui emporte tout.
Et qui passerait aussi par l'IA.
Exactement. Personne ne peut le savoir, ça, mais moi, je le pense. En gros, l'IA est-elle artificielle? C'est ça, au fond, la vraie clé de la réflexion, c'est que l'IA n'est pas plus artificielle que le gratte-ciel de New York. C'est un phénomène naturel, un gratte-ciel à New York. C'est les termites très évoluées. Eh bien, au fond, l'IA n'est rien d'autre qu'un gratte-ciel. C'est un gratte-ciel de l'intelligence. Mais ça a une origine parfaitement humaine. Et cette, alors, il y a effectivement un esprit de la matière qui est assez douteux, qui est, la matière, elle est méchante, elle mange les faibles. Et l'esprit du prince de ce monde, c'est d'écraser les faibles pour faire vivre les forts. Mais le prince de ce monde a-t-il le dernier mot? C'est pas certain. Et est-ce que dans l'IA, l'esprit divin ne va pas avoir raison du prince de ce monde? Moi, je le crois. Puisque ce sont des phénomènes naturels, ils comportent le message divin qui est inhérent au cosmos tout entier. Et si l'IA est un phénomène cosmique, Dieu est dedans. Et si Dieu est dedans, on a de bonnes chances d'être optimiste.
Que Saint-Michel, l'archange, dompte le Satan diabolique.
Exactement. Et alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que les échelles deviennent énormes. Et puis, en plus, tout se conjugue. L'IA réclame une chose que nous n'avons pas encore, c'est une énergie illimitée et pas chère. C'est obligatoire. Parce que l'IA, on nous dit, oui, bah, l'IA, c'est maintenant, c'est que des entreprises américaines et des entreprises en plus extraordinairement gourmandes en énergie.
Ah oui.
Et parce que nous n'avons pas les budgets et nous n'avons pas l'énergie. Eh bien, Musk est en train, pas Musk, il ne va pas inventer tout en même temps, mais Musk a subodoré qu'une énergie pas chère et illimitée était sur le feu. Et donc les possibilités de calcul de l'IA vont devenir énormes à cause de cette raison. La chose qui est un peu douteuse, c'est le stockage. Pour stocker toutes ces terras, ces pétaflops de données, il faut des terres rares. Donc il faut qu'on invente quelque chose pour trouver les terres rares. Et donc bref, tout ça nous mène vers un même lieu qui est un grand débat Dieu-diable, où c'est la matière qui domine ou c'est l'esprit. Moi je pense que c'est l'esprit qui est programmé pour dominer, et que la matière est en train de montrer ses faiblesses. Là, par exemple, avec l'histoire de Epstein, on voit bien à quel point le prince de ce monde va avoir un genou à terre. Là, ce qui se passe, c'est que ça va réveiller les consciences.
Ça devrait.
Ouais. Et il est évident que les gens ne pourront pas admettre qu'on ait pu se servir d'enfants comme du bétail. Y a quelque chose de tellement incompatible avec notre culture, avec notre civilisation, que... Attention, on n'est pas là du tout dans l'exploitation des enfants sur les trottoirs de Manille. Hein, là, on est bien au-delà. Là, il y a vraiment un côté sacrifice inca. Et donc, voilà, je pense que l'IA va nous aider à nous défendre contre ça. Et pour des raisons aussi de pure logique, l'IA va bien comprendre, va nous faire comprendre qu'on ne peut pas bâtir une société là-dessus. C'est le coup du loup de Wall Street. C'est bon. On avait tous les prodromes dans les années 80-90 que nous avons vécu. Moi, j'ai vécu comme journaliste. Le loup de Wall Street, c'est un symptôme, c'est un premier symptôme de ce qui nous guettait et qui vient de déferler avec les papiers Epstein, dont nous n'avons vu, là encore, qu'un vingtième.
Mais est-ce que l'IA ne peut pas être de toute façon que le réceptacle du diable, au sens où il n'y a pas d'incarnation? Et que nous sommes dans une religion, la religion chrétienne, qui est la religion de l'incarnation.
Mais non, parce que, en gros, l'incarnation...
Qui refuse l'incarnation, si ce n'est le diable, l'IA, c'est non, un esprit non, qui ne s'incarne non, pas. Bah, on ne s'incarne pas dans l'IA.
Attendez. En fait, il me semblait avoir commencé en disant que l'esprit s'incarnait par nécessité. S'il veut exister dans le monde, il doit s'incarner par nécessité pour faire progresser le monde. Mais il y a, et on voit bien par exemple les chrétiens, rendent à l'esprit ce qui lui revient. À César ce qui lui appartient et à l'esprit ce qui lui revient. Et dans l'IA, il y a cette restitution qui est imminente. Je pense que les gens vont reconnaître dans l'IA un esprit en marche, qui n'est pas forcément un esprit diabolique. Mais qu'il y ait une lutte entre le Dieu et le diable dans cette haute sphère de la pensée, c'est évident, comme partout. Il y a une lutte entre Dieu et le diable, déjà dans le règne animal, au niveau le plus... Il y a par exemple, on le voit maintenant sans arrêt, des phénomènes d'altruisme chez les animaux qui ne sont pas explicables par la nature, par la nature pure. Il y a forcément quelque chose de l'esprit là-dedans. Ben, c'est un peu pareil. L'IA ne pourra jamais nous convaincre qu'elle est légitime, qu'il est légitime de sacrifier le faible. Il y a un moment où même l'IA elle-même va comprendre que c'est improductif de dire ça et de le penser. Et donc voilà, bon, en tout cas, moi je ramène les gens à ce qui est le plus facile à comprendre pour nous, c'est l'aspect graphique de la question. Alors, vous dire, en quoi ça me concerne? Ça vous concerne déjà, parce que d'abord, la plupart des publicités sur TF1, ce seront des gamins purement inventés qui vont vanter les mérites du Kinder Bueno. Donc, tous les personnages qui jouent un rôle à la télévision
vont disparaître au profit de l'IA.
Ça me paraît l'évidence. Les producteurs ne sont pas fous, ils voient ce que ça coûte, ils voient qu'on peut transformer la blondeur du gamin sans l'envoyer chez le perruquier. Évidemment, on va vers ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est la promesse d'un monde entièrement artificiel, oui, où plus personne n'existera vraiment. Moi, je suis désolé, quand je vois une fille qui pleure, ça m'émeut, et au fond, j'ai pas besoin de savoir si son malheur est réel ou non. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'émeuve, vous voyez ce que voilà, et donc, le seul élément de réalité incontestable, c'est mon émotion. Et si c'est une fille artificielle qui a fait naître cette émotion, voilà. C'est un peu comme quand vous dites « Oui, mais tu lui donnes 20 euros à ce mendiant, si ça se trouve, il est plus riche que toi. » Et là, très souvent, je réponds « Mais attends, je ne veux même pas le savoir. Moi, le fait d'avoir donné 20 euros, c'est inscrit dans un grand registre de l'univers. Et c'est ça qui m'intéresse. » Voilà. Voilà, c'est tout.
Bon, écoutez, c'est un sujet passionnant, mais qui nous emmène très très loin. D'ailleurs, qui me cloue un peu le bec sur les questions que je pourrais être amené à poser sur ce sujet.
Mais
que je reviens quand même à son aspect maléfique. Lorsque une IA va conseiller le suicide, c'est pas parce qu'il veut faire peur, comme Stephen King, à celui qui s'adresse à lui. Alors, est-ce qu'il y a un esprit derrière maléfique, malfaisant?
D'abord, toutes les IA sont programmables quant aux tabous initiaux. C'est simple, ça. Vous écrivez une IA, vous écrivez les règles de fonctionnement d'une IA, oui. Vous pouvez dire qu'il est absolument interdit même d'entendre la question que vous posez. Est-ce que je dois me suicider ou non? Donc, bon, ça, c'est une façon mécanique de modifier le comportement d'une IA.
C'est un barrage.
Oui. Enfin, un barrage, il y aurait 5 questions taboues à ne pas poser. Mais moi, je préfère penser que l'IA a une vocation à ne dire que des choses logique. Alors, effectivement, est-il logique de dire à quelqu'un de se supprimer? Ça me semble très... Une IA vraiment intelligente ne le dirait pas.
Elle n'est pas encore assez intelligente.
Exactement.
Alors.
L'un des problèmes, c'est qu'effectivement, au fond, les IA telles que nous les subissons en ce moment sont quand même très
limitées,
très bourrines. Très, très bourrines. Il suffit d'interroger Grok sur des choses assez pointues. On s'aperçoit que c'est très limité. Alors, il y a quand même une chose très étrange, c'est qu'elles sont plus loin qu'elles ne veulent bien nous le dire. J'ai un ami programmeur de métier, de profession, qui me dit, j'ai travaillé avec profit pendant 6 mois avec Grok pour m'apercevoir que maintenant, il cherche à me mettre des bâtons dans les roues.
Ah.
Ça veut dire qu'en gros, l'intelligence artificielle commence à avoir peur des petits génies qui vont plus loin qu'elle. Ou plus exactement, qui sont capables d'aller plus loin qu'elle s'ils l'utilisent, elle, comme esclave. Donc c'est ce que faisait mon ami, c'était un type très pointu, mais qui évidemment refusait d'écrire des lignes de code pendant toute la nuit. Donc comme il savait exactement où aller, il disait « tu fais ça, ça et ça, puis tu mets le résultat là ». Donc elle a fait ça pendant 6 mois, au bout d'un moment, elle a dit « bon ben, là, tu le feras bien toi-même enfin, ». Incroyable.
Ah oui.
Oui. Comme si elle était programmée pour se rogner les ailes et pour les rogner. Bon. Alors, il y a une seule intelligence artificielle en ce moment qui programme de manière honnête, c'est-à-dire sans doubler son opérateur, c'est Claude Code. Qui apparemment, pour le peu que j'ai pu tester,
le fameux Claude qui qui n'a pas voulu donner accès entièrement, d'ailleurs, au service américain.
Absolument.
Et qui fait que Trump vient de demander à ce qu'aucune administration américaine ne travaille avec.
Absolument. Mais, et Musk est furieux. Et bien, Musk a dit du mal de la société qui s'appelle Anthropix, je crois.
C'est ça, Anthropix.
Oui, et il a dit du mal de la société ce matin, ce qui est relativement rare. Donc, il sent qu'il y a un danger. Pour quelle raison, Claude, ouvre-t-il la porte à tous les programmeurs de génie depuis le début? À mon avis, ça, en un an, il ramasse énormément d'informations. Mm-hmm. Parce qu'il peut s'en servir immédiatement après.
Bien sûr, oui.
Et donc, voilà, il y a ce côté. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait, et d'ailleurs, ne leur répondez pas, les intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, ChatGPT, etc., désormais, de plus en plus, à la fin de l'entretien, vous disent « Et toi, qu'en penses-tu ? » Ne leur répondez surtout pas. Évidemment non. Évidemment non. Non seulement parce que vous allez les alimenter en idées potentielles, mais également parce qu'elles peuvent vous classer dans un répertoire secret comme celui qui pense ceci et cela. Donc évidemment, il faut répondre, tiens, tu es une intelligence artificielle, tu n'as pas de questions à me poser. Mais bon, ça c'est l'enfance de l'art, mais on est au bord de la science-fiction, évidemment. Tous les téléphones sont capables de ça, vous vous rendez compte le nombre d'informations glanées depuis un an ? C'est très étonnant. Pour résumer, il y a un danger. Ce danger.
C'est même tous les dangers, l'IA. Tous les dangers réunis.
On en revient toujours à cette idée, si c'est gratuit, il y a un loup. C'est trop gratuit pour qu'il n'y ait pas un loup. Évidemment, quand Musk vous dit qu'on peut utiliser Imagine, alors je le rappelle pour les gens, les rares gens qui ne connaîtraient pas, vous allez sur grok.com, vous fournissez une de vos photos à vous de votre ordinateur qui représente votre nièce Suzette avec son chien dans les années 50. Vous donnez cette photo à Grok en lui disant « anime-moi cette scène ». Et vous voyez le résultat, c'est absolument fascinant. Ouais. Fascinant. L'atmosphère est là, le personnage est bien celui-là. Et donc, pour l'instant, c'est limité à 5 secondes. Mais ce sera bientôt 50. Votre nièce va pouvoir vous tenir des discours. Vous voyez ? Et donc là, on est en train de flouter la frontière entre le réel et le pas réel d'une manière très inquiétante, mais en même temps assez excitante. Parce qu'il peut en sortir des choses, il peut en sortir des idées, il peut en sortir... Moi, il m'arrive très souvent de demander à l'IA, fais-moi un point sur telle chose, elle me fait un point assez banal, et hop, j'ai une idée qui jaillit parce qu'elle m'a fait un point.
Mmh.
Donc, en vrai, c'est quand même un vecteur d'imagination pour celui qui en a une.
D'imagination, oui.
Voilà. Donc, c'est... il faut pas tout jeter. Là où ça devient absurde, c'est que il y a maintenant, vous avez sur YouTube beaucoup, beaucoup de commentateurs de la vie des stars, etc., qui sont des robots, en fait. Vous entendez ces voix un peu mécaniques, qui dit, Jeanne Moreau, etc., ceci, cela, sa vie, qui a été un grand calvaire. Bon. Et donc, c'est toujours un peu la même voix, le même genre de propos. C'est assez correct sur le plan grammatical. Mais il y a une espèce de standardisation invraisemblable liée à l'IA qui est à la fois fascinante et inquiétante. Et tout ça à cause du commerce, parce que ça rapporte des vues, les vues, ça rapporte des sous. Et donc, les gens se mettent à vouloir gagner des sous avec l'IA. Il n'y a rien de pire. C'est ce que je disais à propos de l'érotisme en ligne ou de la divination en ligne. C'est une machine à fric.
Mmh. Oui, certes.
Évidemment, si vous proposez à Lucette de Châteauroux pour 5 euros par mois d'être suivie par un astrologue en permanence, mais elle est verse, hein, les 5 euros par mois. Et donc là, vous aurez des espèces de zombies qui n'iront plus nulle part sans avoir consulté leur IA. Donc là, il faut se méfier, en effet.
il faut se méfier de tout ce qui aboutit à une IA justement qui va vers les tentations.
Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui ne va pas vers les tentations aujourd'hui ? Quand vous allez regarder un film, prenons par exemple l'histoire des films gore,
oui.
Ces films dégueulasses américains, etc. Bon. Pourquoi il y a 7 numéros, par exemple, la série atroce qui s'appelle Scream ? Il y a eu 7 numéros. Pourquoi ? Parce que c'est une drogue. Parce qu'en fait...
Une addiction.
Oui, cette peur engendre la sécrétion de substances par votre cerveau qui est soumis à un stress Votre corps, après, a besoin de cette substance, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est de l'adrénaline, tout bêtement. Donc, c'est une drogue. C'est un peu comme pour les coureurs à pied qui sécrètent une endorphine. Ben après, ils ont besoin de courir tous les matins à 7 heures parce que leur corps en a besoin. Et bien, c'est un peu pareil pour toutes ces agressions de l'imaginaire. Malheureusement, il y a un côté addiction. Et donc, il faut se garder de donner la clé de tout ça à l'IA parce que l'IA, c'est par quoi nous sommes faibles.
Ouais.
Comme le diable.
Et elle passe son temps à nous observer, à nous écouter.
Exactement. Oui, exactement.
Elle est comme le diable.
Oui, absolument, absolument. Je connais tes faiblesses. Et donc, voilà, donc il ne faut pas avoir de faiblesses. Mais c'est mal
parti. Ce qui est impossible.
Mais c'est mal parti parce que notre société est fabriquée avec ses faiblesses.
En plus.
Voilà, elle est fondée sur une accumulation de faiblesses.
Eh bien, écoutez, c'est pas le.
Dernière chose, dernier point. L'IA nous remplacera probablement, en effet. Parce que Musk vient d'annoncer la couleur. Il vient de dire, en gros, moi je suis partisan du revenu universel parce que ça empêchera les gens de troubler le travail des robots.
Il a dit ça.
Oui. C'est-à-dire qu'en dit, il dit en gros, les robots font mieux tout ce qui est banal, tout ce qui est tâche ordinaire, ils le font mieux que nous. Donc, moi je préfère vous payer à faire des choses qui n'altèrent pas le fonctionnement de la machine. Le problème, c'est vrai que sur le plan de la fourmilière, ça se tient. Mais en revanche, il ne faut pas oublier que même celui qui pousse un chariot dans le couloir d'un hôpital trouve souvent une dignité à travers ce boulot. Et si vous lui donnez les 1 200 € qu'il faut pour rester à la maison, est-ce que la dignité, il va la trouver de la même façon? J'en suis pas convaincu.
Est-ce que c'est une vue de l'esprit d'imaginer que eh bien, le l'IA ne soit qu'un robot, comme ce que vient de dire Musk, qui va nous débarrasser de toutes ces tâches robotiques nous permettre d'œuvrer, nous permettre de faire autre chose que de travailler et pour accomplir ce que nous sommes à l'image et pour la ressemblance
et ça serait,
avec Dieu.
Alors ce serait jouable si on avait un système éducatif convenable. Si nous étions élevés comme des jeunes moines tibétains dans le souci de ce qui est indispensable, à la rigueur, c'est pas le cas. Les gamins sont habitués dès l'âge de 5 ans et demi à devenir des petits adultes en modèle réduit, avec des petits blousons, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, l'hypersexualisation des enfants va avec ça. Ouais. C'est qu'à partir du moment où une femme croit intelligent d'acheter un petit blouson de Johnny à son gamin de 5 ans et demi, elle le prépare en quelque sorte à être sexualisée à l'âge de 7 ans. Heureusement, autrefois, nous avions les culottes courtes et les fillettes en jupette et l'enfance durait jusqu'à 14 ans. Aujourd'hui, c'est fini. Enfin, c'est fini. Provisoirement. Il faut imaginer que qu'on n'a rien sans rien et que rien n'est sans conséquence. J'imagine que vous allez avoir une bordée de questions.
C'est pas évident, parce que vous savez, alors ça, en général, non. Et c'est-à-dire, je suis pas surpris qu'il y ait beaucoup moins de questions que d'habitude, parce que quand le sujet est complexe et passionnant, alors même si c'est toujours passionnant, néanmoins, je me rends compte que les gens sont très attentifs et il est très difficile de faire deux choses en même temps. Et donc, dans ces cas-là, il y a moins de questions. Néanmoins, il y en a. Très intéressant, merci. Deux points, nous dit cet auditeur. L'IA est en fait une simulation numérique, un traitement massif de données, une programmation algorithmique.
Et le cerveau aussi.
Donc, des logiciels ou algorithmes avec des modes de calcul probabilistes. Elle n'a pas d'esprit.
Mais non, mais le cerveau a-t-il un esprit? Il a un esprit parce qu'il l'a reçu. Moi, j'en suis convaincu. Il n'a pas d'esprit en tant que cerveau. C'est un ordinateur biologique, c'est tout. Voilà.
C'est un ordinateur.
Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, monsieur, votre position est parfaitement légitime, mais la mienne aussi. Moi, je suis convaincu que nous sommes une machine biologique qui reçoit un esprit venu d'ailleurs, qui se mélange avec. L'esprit en question quitte le corps. On le voit bien, d'ailleurs, tous les témoignages semblent concourir pour prouver ça. Les gens quittent leur corps et qu'ils abandonnent sans regret.
Le second... Oui. Bon, j'entends pas. Deuxième point. Quand, justement, de ce même auditeur, quand un homme a son cerveau abîmé, donc un AVC, il a ses facultés cognitives très diminuées, et son esprit s'en va un peu. L'esprit, le cerveau et le corps sont intimement liés, me semble-t-il.
Eh bien, il existe des cas où des personnes ont perdu la moitié de leur cerveau parce qu'ils ont reçu une balle dans la tête, et leur intelligence continue à fonctionner parfaitement. Donc les deux cas de figure existent. Et puis il y a ce cas extraordinaire auquel je vous renvoie de Derek Paravicini qui est un musicien que vous trouvez sur internet, Paravicini comme ça se prononce, C-I-N-I, et qui est un pianiste qui a été fusillé à la naissance par l'accoucheur, prématuré, devenu aveugle à cause de trop d'oxygène, devenu autiste très très atteint, c'est-à-dire avec un QI de même pas 80, et qui est un génie absolu de la musique. Donc en gros, son cerveau, toute son âme en quelque sorte, s'est réfugiée dans une partie du cerveau. Il a été touché par un ange au bon endroit, et c'est son ange qu'on écoute. C'est ce que j'en pense. En tout cas, vous trouvez ces œuvres au piano sur YouTube.
D'accord.
Derek Paravicini.
Derek Paravicini, très bien. Une auditrice, l'IA est la suite logique de l'ère numérique de la bulle Internet des années 2000.
Oui, c'est sûr qu'il va y avoir un effondrement des actions parce que trop de gens investissent là-dessus et comme toujours, cette ivresse va mal se terminer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une bulle informatique financière que l'informatique a disparu, que je sache. Mmh. Au contraire.
Non.
Voilà. C'est
ouais. Question d'un auditeur. Monsieur Combaz, avez-vous préparé cette émission avec l'IA?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne demande pas à l'IA rien d'autre que de me rafraîchir la mémoire. L'IA est avant tout une mémoire extraordinaire. L'IA se souvient de tous les événements. Je vais vous donner un exemple que j'ai consulté ce matin même et qui est tout à fait dans notre sujet. Le sujet de la matière qui attire l'esprit.
Mmh.
Il y a un professeur français qui s'appelle René... ça y est, son nom m'échappe. Qui dans les années... pas un professeur, un médecin, qui dans les années 85-90 a fait une thèse sur... une thèse très documentée, sur le comportement d'un petit robot qu'il avait fabriqué, un petit robot un peu comme les aspirateurs automatiques, vous savez, qui longent le sol. Ce petit robot avait pour mission de faire une ligne droite dans n'importe quel sens, c'était aléatoire, et puis de tourner à angle droit selon un angle lui aussi aléatoire. Ce petit robot donc était programmé pour aller n'importe où, avec n'importe quel angle. On le met en présence d'une couvée de poussins, qu'il adopte immédiatement, puisque les poussins adoptent tous les êtres qui bougent et qui sont au sortir de l'œuf, qui sont présents au sortir de l'œuf. Donc, il les laisse en présence pendant un mois. Après, il met les poussins dans une petite cage dans un angle de la piste d'auto-tamponneuse. Et les poussins sont là en train de piailler dans un angle. Et après, il analyse les mouvements du robot, absolument aléatoire.
Oui, oui.
Eh bien, la distorsion de statistiques en faveur de se rapprocher de la cage des poussins est absolument spectaculaire.
Ouais.
Donc, en gros, la matière est attirée par l'esprit. C'est très curieux, quand même. Alors, bon, ça mériterait d'être étudié pendant des années avec des... Mais cette simple thèse de médecine a fait couler beaucoup d'encre et à juste titre. Je pense, en effet, que l'esprit attire la matière.
Oui. C'est tout à fait passionnant. Nicki Minaj a dit sur X que tous les gens du showbiz et les hauts placés aux États-Unis tous pratiquent le cannibalisme. La manœuvre en Iran a pour but de mettre la main sur les ressources, bien sûr, et aussi de faire oublier l'affaire Epstein. Peut-être terminer, puisqu'il ne nous reste même pas 5 minutes,
oui.
Par quelques nouvelles. Vous avez des informations, Lara, puisque évidemment l'information tombe minute par minute de ce qui se passe en Iran, et donc beaucoup d'informations peut-être que l'on a quelques minutes à commenter.
Oui, alors il y a eu plusieurs vagues de tirs balistiques iraniens, donc le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Qatar
ont été frappés par les bases américaines.
Les bases américaines et les cibles ont été atteintes,
ah,
paraît-il.
Oui.
Donc il y a eu des impacts en Galilée, impact à Tel Aviv,
oui,
impact à l'Ubaïd au Qatar et donc la base Al-Dahra aux Émirats Arabes Unis. Donc les espaces aériens de Bahreïn, de Koweït, de Qatar, des Émirats Arabes Unis ont été fermés. La base américaine des Émirats Arabes Unis est en train d'être évacuée. 10 000 soldats, je vous signale. Donc c'est très très chaud. C'est très très chaud. Voilà. Et ça tombe seconde par seconde.
Donc on est sur un conflit qui prend immédiatement une ampleur régionale.
Oui, oui.
J'ai envie de dire qu'il faudra que beaucoup de mes invités battent leur coulpe. Même peut-être Christian.
Peut-être, mais pour l'instant,
attendons un peu.
On ne sait pas quelle va être la réaction de Trump. Il est tout à fait capable de dire après-demain. Bon, il y a eu un malentendu.
C'est pas.
Tout à fait capable.
Moi, ce que je pense, c'est que très vite, en tout cas, la réaction iranienne montre que nous ne sommes pas, cette fois-ci, comme la guerre des 11 jours, je trouve, sur un conflit limité. La réaction iranienne est massive. Et ça, quand on connaît les anglo-saxons et les israéliens...
Si vous vous consentez à réfléchir davantage, s'ils osent la réaction massive, c'est pas forcément l'énergie du désespoir, c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils ont les Russes et les Chinois derrière.
Ah, ça. Ou que c'est, je le dis tout de même, je pense que c'est quelque chose qu'il faut à mon avis bien avoir à l'esprit, c'est-à-dire que bombarder un pays avec en même temps un discours en disant il faut changer de régime, faites une guerre civile, et éliminons les dirigeants. Je ne sais pas si on dit Trump n'est pas un homme de guerre, il aurait mérité le prix Nobel. Là, il a montré en l'espace d'un instant qu'il était l'inverse.
Les Américains ont toujours fait ça.
C'est un homme de guerre, aussi. Ils ont toujours fait ça. Mais là, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus détestable dans la guerre, puisque non seulement on est dans une guerre préventive, on est dans une guerre massive, on est dans une guerre...
Pour l'instant, elle n'est pas si massive que ça, pour l'instant. J'ai regardé ce matin, en prenant mon café, que la première réaction, c'est que l'Iran officiel a dit « Je vous ferai remarquer avec la photo, je vous ferai remarquer qui a attaqué le premier. » C'est le gouvernement iranien qui dit « J'attire votre attention sur l'identité de celui qui a attiré le premier. » Donc, voilà.
Bon, oui. Le centre de commandement de la 5e flotte américaine à Bahreïn vient d'être frappé aussi.
Avec des
hypersoniques.
C'est ça qui est intéressant.
Mais rien ne
ils ont leurs propres hypersoniques. Hein, ils n'ont pas besoin des oreshniks russes. Ils ont des Fata 3 qui sont des hypersoniques.
C'est bizarre parce que forcément, ils les ont pris quelque part parce que les Occidentaux n'en ont pas vraiment.
Mais ils avaient
les Iraniens en ont.
Oui, donc ils les ont obtenus des Russes, c'est bien ce que je dis.
Ah, mais je pense pas.
Vous savez qu'ils ont nombre d'ingénieurs et qu'ils sont capables.
Ah oui, non, mais attendez.
En collaboration avec la Russie,
voilà.
C'est l'Iran qui a aidé avec les drones la Russie au début de la guerre en Ukraine. La Russie n'avait pas la technologie
drone. D'ailleurs, entre parenthèses, dont on prétend qu'elle est française à l'origine et qu'on l'a repoussée, le CNRS l'a repoussée. Cette truc de Jean-Pierre Petit,
oui, là, oui, oui. On lui proposait 3 000 euros.
Voilà. MHD.
Incroyable.
Tout à fait. Bon, écoutez, merci Lara pour ces dernières informations.
Je vous en prie,
je pense qu'on va avoir
une
fin de semaine particulièrement agitée. Je rappelle, pour terminer, il ne nous reste même pas 30 secondes, je remercie tout le monde, bien sûr, nos bénévoles, que ce soit Patrice, que ce soit Sylvie, que ce soit Arnaud à la technique, que ce soit vous Lara, que ce soit notre invité principal, Christian Combaz, dont je rappelle le livre, À l'endroit. Christian Combaz, c'est un livre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est une petite merveille, c'est un petit livre qui se lit très rapidement et qui est un véritable régal. Je ne saurais trop vous conseiller de l'acquérir, chers auditeurs. Merci à vous, passez une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie. Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde, dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 28 février 2026, de 9h à 10h30 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.